On va démarrer cette première table ronde du festival autour de l'imaginaire.
Voilà, le premier festival de l'imaginaire de Grenoble, organisé par les Rêvailleurs. Donc, on est ravis de vous voir ici. Donc, à la base, la table ronde.
Est-ce que je peux ?
Pardon. Vous allez, moi, on va demander de faire le brief.
Je suis la responsable de la bibliothèque et donc j'étais contente d'accueillir tout le monde et d'être partenaire du festival Rêvailleurs. C'était ça l'important. Donc, après, je vais te laisser parler. Juste, tu te présenteras aussi. Mm-hmm. Et voilà. En tout cas, nous, on est très heureux. Je voulais vous dire, l'exposition est de Benjamin Fries, dit, ou dans l'autre sens, Ben.
Oui, bon.
Voilà. ces planches peinture originale et peinture numérique seront là encore jusqu'à la fin du mois de juillet, pratiquement. Ce que je peux dire, c'est qu'elles ont un très grand succès. Il y a beaucoup de gens qui passent et qui aiment beaucoup. Voilà, ça c'est important. Voilà, c'est tout. On a juste une heure. Donc je laisse à Delphine le soin de présenter la table.
Donc c'était une table ronde normalement avec Gilles Francescano et Marie Pavlenko qui est ici. Malheureusement, M. Francescano ayant loupé son train, il ne pourra pas être présent. Il va arriver vers 14h40, donc au moment où vous allez commencer à poser des questions, ce qui est un petit peu court pour son intervention. Du coup, Benjamin nous a fait l'honneur d'accepter de participer à cette table ronde qui est sur le personnage féminin comme héros dans les littératures de l'imaginaire et la littérature jeunesse. Voilà, donc Marie et Ben, bienvenue parmi nous.
Merci.
Voilà. Donc cette table ronde va être un petit peu sous forme de dialogue informel. Je vais vous poser des questions éventuellement. Vous avez parlé de votre regard sur les personnages de littérature de jeunesse. Donc Marie a avec elle deux livres qui sont sortis courant de cette année et de l'année dernière. Donc le livre de Saskia, avec un personnage féminin qui... et une héroïne. Donc je te laisse nous en parler un peu.
Alors je sais pas, il y a des gens qui ont lu Saskia ici ou
oui.
Donc qu'est-ce que je peux vous raconter? Donc Saskia est une jeune fille de 18 ans, donc c'est une héroïne qui est à la croisée des chemins, hein, qui termine son adolescence et qui, j'allais dire évidemment, enfin bon, c'est le propre de ce genre de littérature young adult, va passer dans l'âge adulte. Elle vit seule avec sa mère adoptive dans la très grande banlieue parisienne et c'est une fille comme tout le monde, donc elle est décidée, elle a un caractère, un bon caractère, mais voilà, elle n'a pas de super pouvoir et elle n'est pas non plus une espèce de nunuche, amoureuse, etc. Et puis, une série de choses va lui arriver et elle va se rendre compte que, en fait, non, elle n'est pas du tout normale et qu'elle appartient à un peuple qui vit à côté de nous aujourd'hui, ici, qui s'appelle les Enkidar et qui sont donc des créatures ailées. Qui sont divisés en deux peuples. D'un côté, les gardiens qui sauvent l'âme des vivants et de l'autre, les faucheurs qui recueillent l'âme des morts. Et c'est toute son histoire, son parcours, comment elle se découvre, comment elle évolue, de quelle façon elle reçoit cette entrée dans ce monde, comment elle y réagit, etc. Voilà. Et c'est un point de vue, c'est elle qui raconte l'histoire, donc on est avec elle, c'est du jeu. Et c'était important pour moi d'essayer de coller au plus près de tout ce qu'elle vivait, mais aussi de tout ce qu'elle ressentait. Il y a un gros travail autour des sensations, des émotions, l'ouïe, le toucher, etc. Voilà.
Donc voilà pour Saskia, donc c'est une jeune femme qui est vraiment... Enfin, ouais. Le mot jeune femme s'applique tout à fait, elle est vraiment à la transition, plus enfant, pas encore femme. Et donc, c'est un personnage qui est contre, entre guillemets, les stéréotypes du héros, qui est exceptionnel depuis le départ, et qui rentre, enfin, la plupart des héros masculins, c'est cela. Donc vous, Ben, si je vous dis héroïne féminine de jeunesse, qu'est-ce que ça vous évoque comme image, comme visuel par exemple, puisque vous travaillez avec les dessins? Est-ce que par exemple dans votre galerie, il y aurait un personnage qui pourrait représenter pour vous une héroïne de jeunesse, un petit peu dans le rôle de Saskia?
C'était pas prévu que je participe.
Vous avez je passe. Hein. Vous avez un appel à un ami aussi.
Ah bah tout de suite, moi là je pense à la qualité qu'est le courage, une héroïne, voilà. Et alors, est-ce qu'il y aurait un de mes personnages qui correspondrait à ça? Merci pour la question. Je pense à cette femme qui a dompté un lion, qui pourrait avoir donc du caractère, ou celle-ci qui regarde le soleil et qui a l'air de penser à beaucoup de choses, qui a l'air de beaucoup réfléchir.
C'est vrai que, qui ayant lu Saskia, moi, c'est
moi aussi, frappé c'est parce qu'elle a la même couleur de cheveux.
Ouais. Elle a la même couleur de cheveux.
J'ai pas lu.
Ouais, ça m'a fait penser aussi à la première fois où elle vole en esprit. C'est assez frappant pour ceux qui ont lu Saskia. Ça représente énormément une scène, en fait, qui a lieu dans le livre. Tout à fait.
D'accord.
De façon tout à fait...
Ouais, elle a la même couleur de peau, elle n'a pas les mêmes yeux, mais sinon elle pourrait ressembler à Saskia. Ouais. Sur l'histoire du personnage féminin comme héros, j'ai fait des petites recherches quand même, j'ai préparé un petit peu hein, le FIG, le Festival de l'Imaginaire de Grenoble, et j'ai vu qu'il y avait un bouquin qui était sorti, un collectif qui a été... écrit par plusieurs auteurs, je crois qu'ils sont sociologues, mais j'avoue que j'ai pas tout noté, et qui a été chapeauté par une dame qui s'appelle Louise Billa, si mes souvenirs sont bons, et qui explique qui a demandé à donc plusieurs spécialistes d'analyser le héros féminin. Alors il y a déjà une controverse entre héroïne et héros féminin, ce qui en raconte quand même lourd. Ouais, parce qu'on a des héros, voilà, et tout le monde est d'accord, on a un héros, mais alors à savoir s'il y a une différence entre l'héroïne, qui pourrait donc être celle qui accompagne le héros, et le héros féminin, qui est donc l'alter ego, entre guillemets, du héros. Et la plupart des interventions notaient que, en fait, alors notamment dans la littérature jeunesse, mais partout, il y avait comme ça une figure féminine qui émergeait ces derniers temps, mais qu'elle était en réalité, elle continuait à être ancrée dans l'image un peu patriarcale qu'on a, puisque ben, l'héroïne, elle, si elle s'engage, c'est parce qu'elle va défendre sa famille, par exemple. Elle reste avec un espèce de handicap, en tout cas, elle est teintée des valeurs qu'on attribue aux femmes, la maternité, la famille, la protection, la réflexion, on réfléchit beaucoup, et que finalement, le héros féminin, il avait du mal à s'ériger au niveau du héros masculin, parce qu'il reste quand même embourbé comme ça dans l'image qu'on a de la femme. Alors ça m'a vachement fait réfléchir, évidemment. Je me suis dit, si ça se trouve, ça se calait pareil, c'est l'horreur, t'as pas du tout réussi à faire ce que tu voulais. Et puis en fait, bah, je crois pas trop. Alors voilà, du coup j'ai beaucoup réfléchi, et c'est vrai que moi j'ai quand même l'impression que le héros féminin dans la littérature jeunesse d'aujourd'hui, il commence un petit peu à s'émanciper. Par exemple, Saskia, elle est attaquée par des gens, elle ne sait pas qui, mais elle a sa propre quête, finalement. Elle veut sauver sa mère, c'est vrai, mais elle a un but qui est le sien propre, et c'est son cheminement qui est décrit, c'est-à-dire comment finalement elle va passer du statut d'adolescente et de petite fille protégée, évidemment, qui est voilà, dans un chemin qu'elle va se choisir elle-même. Et dans le tome 2, par exemple, elle va se heurter au pouvoir en place, hein, donc, qui est très patriarcal et qui est régi par des codes très stricts. Et on lui dit, puisque tu fais partie de notre peuple, il faut que tu acceptes ces codes. Et elle a du mal. Et je pense que c'est aussi sa force. C'est-à-dire qu'en étant un tout petit peu à côté du mainstream, hein, du courant de pensée qui est assez patriarcal, etc. Saskia, elle réussit à trouver sa propre voie et à exister en tant que femme plutôt libre. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui émerge énormément en fait ces derniers temps. C'est-à-dire que le héros féminin, il n'est pas seulement quelqu'un de courageux, qui prend des initiatives, etc. Il arrive peu à peu, j'espère, à se dégager de ce qu'on peut lui attribuer. Par exemple, une plastique, Lara Croft n'est pas un personnage de jeunesse, mais enfin c'est ça, c'est l'héroïne, elle réussit tout, mais alors elle est super bien gaulée et tout le monde trouve ça totalement normal. Et je pense que finalement il y a quelque chose d'assez féministe qui est en train de se naître. Et la littérature de l'imaginaire peut le permettre encore plus parce que, comme elle utilise des métaphores, elle peut transgresser finalement l'image classique de l'héroïne et lui donner plus d'importance et de pouvoir.
Ben, une réaction là-dessus? Est-ce qu'effectivement, à votre avis, bah, on peut repartir aussi sur les dessins? Est-ce que vous avez l'impression que quand vous dessinez une femme forte, par exemple, comme qui a dompté le lion, ou une femme plus faible, plus secrète, comme celle qui sert la lettre, on a l'impression que c'est une lettre d'amour, quelque chose qui compte beaucoup pour elle, il y a cette espèce de carcan, de stéréotypes qui sont à l'intérieur de nous, qui ressortent à ce moment-là? Ou est-ce que c'est plus quelque chose qui est un peu pas forcément juste, que ça ne vous paraît pas pertinent de vous dire qu'il y a déjà une...
Ben, c'est vrai que quand on pense à la femme, on pense forcément à la beauté. Donc il y a un peu ce préjugé tout de suite qu'il faut que la femme soit belle. Donc j'essaye aussi dans mes tableaux de faire ressortir une intelligence, quelque chose de plus profond que juste l'aspect visuel. C'est vrai que je pense que la femme est encore enfermée dans des...
Et si on vous proposait par exemple de dessiner effectivement Saskia et Rose très pâle, mais si on vous demandait de la dessiner ordinaire, d'en faire un tableau d'une femme vraiment vraiment ordinaire, sans l'enjoliver par des effets de couleur, avec les défauts de peau, etc., est-ce que pour vous visuellement c'est quelque chose qui vous vient à l'esprit, ou est-ce que ça reste un petit peu patiné de ce vernis lisse qu'on met très souvent sur la femme héroïne, qui va être en corsage, en belle robe, avec des hanches rondes, une taille très mince?
C'est vrai que ça ne me vient pas naturellement à l'esprit de dessiner une femme plus marquée, plus...
Juste normale, elle peut être juste normale.
Dans mon esprit, je ne me pose pas trop la question, en fait.
Pour vous, à votre avis, les adolescentes actuellement qui pourraient venir voir, ou les pré-ados qui pourraient venir voir vos tableaux, est-ce que ça leur parlerait, ou est-ce que ça parle plus à une frange plus adulte qui a déjà d'autres images dans l'esprit Vous avez le droit de dire « je passe hein. ».
Je pense par le côté coloré quand même, enfin... Je touche quand même un public assez jeune. Après, sur certains tableaux, il y a un aspect plus glamour qui va peut-être toucher plus une frange adulte. Mais voilà, à part ça, je ne sais pas trop quoi.
Ouais, je vous pose une dernière colle. Je vous disais de définir le mot héroïne, pour vous, ça vous inspire quoi? Héroïne jeunesse.
Le courage, la ténacité.
Tout le valeur masculine.
Voilà. une fille qui veut pas se fondre dans le moule.
Voilà. Qui se rattrape comme une poule. Tu te rattrapes comme une poule.
Alors, moi j'ai quand même essayé de me demander pourquoi aujourd'hui il y a comme ça un espèce de courant de plus en plus fort avec des héroïnes. Moi j'aime bien parler d'héroïnes et pas de héros féminins. Et dans la littérature jeunesse pour ados. Alors c'est vrai que moi la jeunesse un peu plus jeune, Lyra chez Philippe Pullman que je suis en train de relire, ou Sophie dans Le bon gros géant de Roald Dahl, qui sont des petites filles, hein, vraiment là, je connais moins, même si je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire dessus. Mais il y a quand même un très très fort courant d'héroïnes adolescentes dans la littérature de l'imaginaire. Alors, il y a un peu comme ça on appelle ça des marronniers dans la presse, des choses qui sont évidentes. Bon, la littérature de l'imaginaire, elle parle évidemment de ce qu'on vit aujourd'hui et de voilà. Et la littérature adolescente et young adulte, c'est énormément la métamorphose et la transformation. Et cette métamorphose, elle est rendue de manière métaphorique dans la littérature de l'imaginaire, et donc c'est un peu moins violent. Je suis en train de regarder, ce n'est pas de la littérature, mais une série, je pense qu'il est interdite aux plus de 15 ans, qui s'appelle Teen Wolf. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. L'histoire d'un ado qui se fait mordre par un loup-garou et qui devient loup-garou. Et en fait, quand on regarde ça d'un peu plus près, c'est quoi ? C'est le garçon ado qui a des pulsions, hein, quand il est avec son amoureuse et que ça commence à... Il a les dents qui poussent, il n'arrive plus à se contrôler. Bon. Et je me suis dit, j'ai l'impression quand même que dans toute cette littérature-là, qui est un peu une littérature de filles, hein, qui met en c'est pas du tout péjoratif hein, dans ma bouche, mais qui est une littérature qui met en scène des jeunes femmes qui sont confrontées évidemment à des choses, elles vont surmonter des obstacles, comme toute littérature initiatique, etc. Il y a un fort courant, que je pense assez féministe, mais qui est aussi... Alors, j'espère que je ne vais choquer personne, qui est très très basé en fait sur la découverte de la sexualité. Et je pense que c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui, mais qui n'était pas avant. Donc je réfléchissais l'autre fois et je me disais, dans la culture la plus archaïque de notre culture, de tout temps, il y a eu des rites de passage. Et ces rites de passage, ils sont pour les garçons, pour les hommes. On devient un homme. Hein. Le truc auquel je pensais, c'est le Maasai qui doit aller tuer son lion. Voilà. Les hommes, ils ont tous un truc où il y a un moment donné, ils vont basculer et ils vont devenir un homme. Les femmes, sauf si vous connaissez, moi je n'en connais pas. À part le mariage et la maternité.
Voilà. Le premier passage, ce sont les premières règles. Où l'enfant devient femme, elle n'a pas de transition.
Mais ce n'est jamais dit.
Ce n'est pas une épreuve, si tu y réfléchis. C'est quelque chose de l'ordre du physique. Tu ne dois pas faire une marée. Si, évidemment.
Ça dépend pour qui.
Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose que tu subis. Si. Les femmes, leur passage, c'est subi. Tu subis tes règles, tu subis ton mariage, tu subis l'enfantement finalement, parce que ton corps est fait pour ça. Un homme, il est beaucoup plus actif dans son passage à l'âge adulte. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui change. C'est-à-dire que ces héroïnes-là, c'est pas facile de les faire exister, parce qu'il faut, ce qu'on disait au début, se départir de tous les lambeaux d'images comme ça, un petit peu. Mais elles vont là-dedans. Et je pense que quand on est ado, la découverte de la sexualité, c'est vraiment un truc, je ne vais pas dire que c'est le grave, enfin, c'est quand même le passage à l'âge adulte, surtout aujourd'hui, surtout dans notre société où c'est à la fois banalisé et en même temps ça reste, genre la première fois quand on lit tous les magazines pour ados, c'est le truc incroyable. Et je pense que cette littérature jeunesse, adolescente, qui met en scène des jeunes filles qui deviennent des femmes, elle parle de ça. Moi je vais un petit peu spoiler Saskia, mais enfin, Saskia à la fin, elle a ses ailes. Et elle a ses ailes qui... alors évidemment j'ai écrit ça, j'avais pas du tout réfléchi, je ne suis pas quelqu'un de très intellectuel, donc j'écris, puis après il y a des gens qui se disent « Ah ah, ouais, ses ailes, ça déchire la peau, et puis elle saigne un peu !» Ah oui, effectivement, je n'y avais pas pensé. Voilà, donc, bon, et en fait, j'ai prêté attention à plein, et tout, beau, énormément de récits maintenant adolescents mettant en scène des jeunes femmes sont comme ça. Sur toujours le thème de la métamorphose, mais quelque chose de très lié à la féminité. Et c'est peut-être quelque chose qui les distingue énormément des héros masculins. Il y a aussi les pulsions, hein, les pulsions physiques. Il y a beaucoup d'héroïnes qui ont peur de la personne qu'elles sentent arriver en elles au moment où elles vont devenir femmes. Et ça, je pense que c'est aussi à rapprocher de, évidemment, la découverte de qui on est, mais aussi de la pulsion physique, quoi. Et j'ai l'impression, dans notre société où la sexualité est partout mise en scène, retouchée, etc., il y a une forme de résonance avec la littérature ado qui met en scène des jeunes femmes aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Justement, est-ce que cette sexualisation passée du stade d'enfant à femme qui peut avoir des relations sexuelles, etc., cette pulsion qui arrive, est-ce que pas justement de faire passer dans l'autre bout, c'est-à-dire l'autre partie de la littérature ado, qui maintenant est très connue sous le nom de bitlit, mais qui existait déjà sous le nom de chiclit ou littérature à l'autre, est-ce qu'on risque pas de retomber justement dans une femme sexuelle et sexuée, et dont le rôle finalement c'est juste ça?
Non, pas du tout. Je pense que... Alors, il y a plusieurs sortes d'héroïnes. Hein. Il y a Bella Swan. Hein. Bon, parlons des choses. Bella Swan qui est la princesse qui trouve le prince charmant. Hein. Donc, dès qu'elle lève le petit doigt, il est là. Dans un film dans les années 50, elle aurait pris une cigarette, il aurait pris son briquet. Enfin, c'est ça, quand même, Edouard. Moi, je le trouve très beau, tout ça. Hein. J'ai lu tous les livres, mais bon. Donc, on est un peu dans la caricature de la jeune fille qui découvre le prince charmant et qui est surprotégée. Ça, c'est un des aspects de la petite. Il y en a plein des héroïnes comme ça. Après, il y a les héroïnes qui n'ont aucune faille, qui sont à rapprocher de Lara Croft, dont je parlais. Qui sont l'équivalent. Alors souvent, ça choque moins parce que c'est des hommes. Hein. Mais le gros guerrier avec des gros biceps et qui a une triple hache qui décapite tout le monde, pour moi, c'est l'équivalent. Je veux dire, c'est aussi une caricature. Donc, ces courants-là, ils existent. Je pense qu'ils apportent certaines choses au niveau de l'identification, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément basculer dans l'un ou dans l'autre. Parce que la sexualité, ça fait vraiment partie dans la vraie vie de la découverte des femmes. Et c'est aussi, très récemment... avec la contraception, une forme de liberté qu'elles ont acquise. Parce que la sexualité, quelque part, ça a asservi les femmes aussi d'une certaine manière jusqu'à très récemment. On faisait l'amour et on tombait enceinte et on devenait maman. Donc il y avait cette espèce de passage-là. Et je pense qu'il y a quelque chose qui résonne aujourd'hui avec ça. C'est-à-dire que l'héroïne, elle s'affranchit, enfin en tout cas, elle essaye de s'affranchir des schémas patriarcaux. Elle essaye de prendre sa vie en main, d'être courageuse, etc. Ça, c'est sûr. Elle a aussi des failles féminines. Et je pense que c'est quelque chose qui est très moderne parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ne sont plus des gros machos testostéronés et qui découvrent et qui assument leur part de féminité. Et je pense que ça résonne à l'inverse dans le personnage féminin parce qu'il est... Il est moins caricatural. Et voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Moins caricatural et moins prince charmant, au final.
Oui. Mais je pense qu'il y a une image comme ça de l'héroïne qui émerge, et j'espère qu'elle va continuer à émerger, qui est qu'elle se bat, elle a des attributs et des caractéristiques qui ont longtemps été attribuées aux héros masculins, mais qu'en même temps, elle a une singularité qui est une forme de fragilité qu'elle peut aussi exploiter, parce que ça fait partie des femmes, et qu'elle trace son chemin en dehors de toute contingence familiale, etc. Enfin, j'espère que la littérature, avec le personnage féminin, il va aller dans ce sens-là, dans quelque chose de moderne, de féministe sans être caricatural.
Donc pour vous, l'héroïne féminine, c'est quelqu'un qui n'attend plus, qui décide d'avancer, d'expérimenter par elle-même.
Oui, qui est plus active.
Voilà, qui est plus active, mais qui n'est plus dans le « ma vie, un jour, j'ai rencontré l'amour et ça va s'arrêter là ».
Je pense que tout le monde à un moment donné pense ça, hein, donc bon, je ne suis pas contre ça, je dis juste que pour avancer et pour exister en tant que soi, avec sa singularité, sa personnalité, il faut réussir à prendre son destin en main et à tracer sa route avec, malgré tous les aléas qu'on peut croiser. Que pensez-vous, Benjamin?
C'est vrai qu'il a...
Je ne sais pas.
J'aurais une remarque dernière par rapport à la littérature de jeunesse et aux héroïnes. Son lieu de travail, je parlais des établissements scolaires, collèges, des ados.
Oui.
Et c'est vrai qu'on a senti monter ce grand mouvement pour toute la littérature imaginaire, fantasy. Et depuis 2 ans, je remarque que les garçons lisent beaucoup, la Kay des Williams, les Téterriens, lisent beaucoup. beaucoup de cette littérature où ce sont des filles, ce qui n'était pas.
Mais c'est ce que je disais. Je pense qu'il se passe quelque chose.
Oui. Parce que cette année, les garçons n'ont jamais emprunté les livres de fantasy où c'était des femmes qui étaient.
Et alors, c'est entièrement vrai, bien sûr. Et moi, j'ai écrit Saskia en me disant, je parle à des filles. Mais vraiment, donc je suis le premier volume. Il y a des fois, il est un petit peu dans la mainstream. Voilà, je parlais aux filles. Et puis, de plus en plus, j'ai des mails de garçons. Et je pense qu'on est justement sur cette espèce de flou des frontières qui intervient un peu dans notre société. Hein, les gens qui sont un peu plus androgynes, les garçons qui sont encore contraints d'être des mâles virils, mais qui ont la possibilité, s'ils sont un peu courageux ou qu'ils sont entourés, etc., ouverts, d'explorer d'autres côtés, d'autres aspects de leur personnalité. Et la littérature de l'imaginaire, en mettant en scène des héroïnes qui ne sont pas des nunuches, mais finalement des filles fortes, elle permet aussi une espèce d'identification miroir. La fille n'est plus une caricature, donc le garçon n'est pas forcément obligé d'être une caricature aussi. Je pense qu'il y a un vrai... Enfin, je suis tout à fait d'accord, et moi je le ressens aussi. Bon, après, je ne sais pas si c'est la seule explication, mais je crois que... Et puis, si on met en scène des héroïnes qui sont plus proches, malgré les métaphores, des jeunes filles d'aujourd'hui, on ne fera pas croire que ça n'intéresse pas les garçons d'aller savoir comment faire une fille, hein ? Bon.
Et l'autre chose qui amène aussi, c'est qu'avec une femme, enfin, une jeune fille héroïne fragile, en face, on ne va pas lui mettre, si on veut la faire non attentiste qui agit, en face, on ne va pas lui mettre une caricature de garçon. Et là, d'un coup, le garçon qui va lire ça va se rendre compte qu'il n'est pas obligé, que dans la réalité, ce personnage, ça pourrait être lui. Et c'est aussi un changement de regard, finalement, qui s'opère sur, au travers d'un roman pour filles, qui s'adresse aux filles, sans les boum-boum, il faut être fort, il faut être puissant, il faut être viril. D'un coup, en face, on a le garçon lambda. Qui se dit, mais mince, mais en fait, je ne suis pas obligée d'être un super-héros. Et ça, c'est aussi quelque chose qui change, qui est assez inhabituel sur certaines tranches d'âge, et qui arrive maintenant avec la nouvelle vague adolescente.
Sachant que la littérature de l'imaginaire permet ça, puisque en ne posant pas les choses dans le monde réel, elle permet la métaphore, elle aide justement à pouvoir prendre du recul. Elle est un moyen extraordinaire d'être par exemple moins la risée. Un garçon qui lirait un truc de fille, hein, de la chick lit, on le montre. Enfin, je veux dire, on est d'accord. Alors qu'à partir du moment où on bascule dans un autre monde, les choses se complexifient. Je veux dire, il y a plein de bouquins qui mettent en scène des héroïnes, et les héroïnes, elles se battent, elles sont. Donc, le garçon, il est moins jugé aussi. Enfin, je pense qu'il y a une histoire de regard aussi avec l'objet livre, presque, peut-être.
Moi, j'ai une question pour Ben. C'est vrai que vous faites beaucoup de femmes, en fait.
Oui.
Et pourquoi pas de garçon ?
Alors, il y en a un maintenant. Il est caché, parce que je ne suis pas très content. je ne sais pas. Je suis inspiré par les femmes.
Il y a pas très longtemps, on m'a dit, moi je suis pas tout d'accord, que un homme ne pouvait pas imaginer ou écrire sur une femme de façon non stéréotypée, non. Je travaille sur le personnage du héros dans mon mémoire, et notamment sur le héros féminin. Et donc c'est ma directrice de mémoire qui m'a assené qu'un homme était incapable de rendre correctement la psychologie féminine ou un aspect de la femme, parce qu'il aurait forcément quelque chose devant les yeux. Et encore plus quand il s'agit du passage fondamental, du passage à l'enfant à l'âge adulte.
C'est aussi un stéréotype de dire ça des hommes.
Tout à fait.
C'est de croire que les hommes sont incapables d'être plus dans les sentiments, plus dans la profondeur féminine. Peut-être qu'effectivement, pour beaucoup d'hommes, ça serait impossible, mais je ne pense pas que ce soit impossible pour quelqu'un de plus sensible.
Et quand vous créez vos tableaux comme ça, vous partez de quoi ? Vous partez d'une envie de dessiner, d'un sentiment que vous avez envie de faire ressortir ?
Souvent, c'est plus une recherche esthétique, donc plus dans les couleurs. Et ça vient après. Quand j'ai commencé le tableau, je ressens quelque chose dans le regard, par exemple, de mon modèle. Donc, je vais essayer d'accentuer ça. C'est dur de parler de son travail.
N'est-ce pas, quand on n'est pas préparé, effectivement. Ouais. Donc, je pense qu'on peut passer aux questions, discussions, si vous en avez pour les auteurs, sur les livres, sur les tableaux, sur...
Alors, par rapport à ce que tu disais quand même tout à l'heure sur un homme qui serait incapable d'écrire... Voilà. Moi, il y a un truc qui est vrai, c'est que je ne me sens pas d'écrire sur un héros ado-garçon. Parce que je pense que le vécu que j'ai est trop loin de ça et que je passerai probablement à côté de certaines choses. Surtout quand on est sur une façon d'écrire qui est un petit peu psychologique, un peu, hein. En tout cas en introspection et avec le jeu en plus. C'est-à-dire que l'utilisation du jeu, il nécessite quand même qu'on... J'ai l'impression qu'en tant qu'auteur, on puisse quand même se mettre à la place et imaginer de façon la plus plausible possible les émotions, les réactions, les sensations, etc. Bon. Moi, un ado garçon, je ne sais pas si c'est à l'intérieur. Tu le dis.
Effectivement.
Et je voulais savoir l'idée de faire une série. C'est quoi? C'est une commande de l'éditeur? Comment? Tout était écrit quand vous l'avez...
Alors, pas du tout. Non, je ne sais pas faire ça, moi.
Oui, c'est ça. Je me demandais, est-ce que l'éditeur a dit ça fait trop?
Oui, non, il m'a dit... je lui ai raconté l'histoire. Vraiment, ce truc est parti quand même. Donc, je voulais faire une fille avec des gens qui avaient des ailes. Hein. C'était ça, quand même. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur mon éditeur. Mais voilà, il publiait déjà les livres. Et puis, bon, enfin, je caricature, évidemment. Il m'a dit, tu peux faire une trilogie. Alors, j'ai une idée, en fait, de dénouement final des trois tomes. Mais quand je me mets à l'écriture d'un tome, en général... j'ai la fin du tome et j'ai rien, quoi. Donc ça vient en écrivant. Donc là, le tome 3 que je vais commencer bientôt, je ne sais pas ce qui va se passer. Pas d'info en exclu. Voilà. Mais je pense que c'est pas... Il y a des gens très, très... Comment dire? Très organisés, hein, qui réfléchissent et qui ne sont pas comme moi. Voilà. Moi, j'ai besoin de d'y aller, quoi. Donc la trilogie, je sais pas. Mais enfin, il se trouve que j'arrive à remplir en même temps. Donc bon, voilà.
Donc votre monde, il se construit au fur et à mesure. Vous n'avez pas un univers déjà préétabli dans votre esprit.
Non. Et c'est un cauchemar de faire ça. C'est une très mauvaise idée. Moi, je dis à tout le monde, il faut plus. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un autre livre en fait là, et j'ai quand même essayé de réfléchir un petit peu plus, alors, parce que ça c'est de la fantaisie vraiment, donc ça c'est du fantastique, donc ça se passe aujourd'hui, ils ont des portables, des ordinateurs, là-bas, mais voilà, il y a quelque chose tout près de nous. Là dans la fantaisie, il a quand même fallu que je mette un petit stop, mais c'est très difficile en fait, c'est un cauchemar, hein, c'est un cauchemar à faire, mais il se trouve que je ne sais pas faire autrement. Mais les Enkidar, j'ai écrit, je suis dit bon... Eh ben voilà, bon maintenant il va falloir que tu leur trouves un nom, parce que là c'est le moment, là il faut qu'il s'appelle quelque chose, donc voilà, c'est vraiment ça. Et ce que j'ai pu écrire sur le carton dans le premier tome, ça évolue dans le deuxième tome, je ne savais absolument pas comment ça évoluerait. J'ai même fait des liens fondamentaux entre le premier tome et le deuxième tome, notamment par rapport à la maman de Saskia. Je suis retombée sur mes pattes, je ne sais pas comment j'ai fait, parce que c'était pas du tout, j'avais pas du tout réfléchi à ça. Donc ça se construit petit à petit.
Et est-ce que vous pensez que les influences de lecture que vous pouvez avoir lorsque vous rédigez vos ouvrages ou le spectacle que vous avez pu voir, ça peut avoir... Est-ce que ça, c'est vraiment un élément fondamental de votre imaginaire ou...
Moi, je pense qu'on est quand même très nourris. Ben, on est des êtres... Voilà, on digère et on recrache. Hein. Y a personne qui invente un truc aujourd'hui. Enfin, je veux dire, avec tout ce qui s'est fait, c'est pas possible, quoi. Alors, bon, moi, je lis beaucoup. Je lis pas que de la littérature de l'imaginaire. Mais, enfin, j'en ai quand même beaucoup lu depuis toute petite. J'aime beaucoup l'animation, le cinéma d'animation. J'ai fait mes études dessus. J'ai fait un mémoire de maîtrise, un mémoire de DEA. Je suis allée au Festival d'Annecy. Et j'ai notamment énormément vu, et j'aime beaucoup les animes japonaises. Et c'est très spécial quand même. Ils n'ont pas du tout la même façon de voir les choses. Et je pense que ça m'imprègne. Je lis des mangas aussi. J'aime beaucoup la BD. Du coup, il y a des choses. Alors, c'est pas conscient, mais je pense que ça influence. C'est-à-dire que je n'écrirai pas
Je pense que le monde serait différent. J'y pensais la dernière fois, notamment cette histoire de carton, etc. Mmh. C'est très, il y a un côté un peu manga quand même dedans, je crois. Si j'en lisais pas et que je faisais pas, j'avais pas cette affinité-là avec le cinéma japonais, je pense que j'aurais jamais imaginé un truc pareil, en fait. Donc oui, oui, je pense que ça nourrit.
Le vol en particulier, je trouve que la description du vol de Zafika en automne, surtout le sien,
ouais.
Je trouve que c'est très lié au cinéma d'animation.
Ouais, c'est très possible.
Ça, et quand j'avais pas fait attention quand vous en parlez, je trouve que c'est très très vrai parce que c'est une très très belle description cinématographique. C'est pas du cinéma, c'est du cinéma d'animation.
Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est marrant, on m'a demandé il y a quelques semaines, j'ai une maîtrise qui m'a envoyé un petit message en me disant est-ce que tu as volé ? Est-ce que tu as fait du deltaplane ou du parapente ? Enfin, je veux dire, c'est une vraie question. Alors, je lui dis non, j'ai le vertige, donc je ne vole pas. Mais en revanche, j'ai fait appel effectivement à des souvenirs de cinéma. Et puis à des expériences sensorielles. Par exemple, je disais, être sur une moto ou sur un scooter, on ferme les yeux et on écoute. On a une idée, hein, ou les montagnes russes, etc. En fait, on peut piocher pour décrire quelque chose. Il suffit de faire une analogie entre les sensations. Et ça, c'est un truc que je pense, moi, je m'y attache, et je m'y attache de plus en plus. Et j'essaie vraiment de cultiver ça, et je pense que c'est très lié au cinéma et à l'animation. J'essaye beaucoup de décrire les bruits, les odeurs, les sensations, et de créer, en fait, une atmosphère. Et je pense que c'est hyper important. Et j'ai l'impression que ça ne se fait pas tant que ça. On a beaucoup de descriptions dans les livres, hein, mais tout ce qui est le toucher, l'ouïe, voilà, on passe un peu à côté. Et je pense que c'est dommage, parce que c'est vachement sympa d'être vraiment dedans, quoi.
Vous, Ben, vous avez quoi comme inspiration
Beaucoup aussi par les mangas, les films d'animation, Miyazaki. Après, oui, certains illustrateurs de fantasy. Puis après, tout ce que je peux voir sur Internet. Voilà. Je regarde beaucoup de galeries d'artistes. Et puis, forcément, ça nourrit aussi. Ouais. Voilà. Je lis pas énormément, donc bon, ça doit avoir... ça doit avoir une influence quand même, mais on ne peut pas dire que je lis beaucoup. Donc, voilà, plus parce que je vois. Mais même après, quand je suis beaucoup inspiré aussi par tout ce qui est la nature, les plantes, beaucoup les plantes, tout ce que je vois voilà, dans la nature aussi. Ça. Voilà. Rien de mieux que ça.
D'où le loup, par exemple, quand
voilà,
je
j'aime
le
beaucoup,
loup,
là, alors, ouais, j'aime beaucoup ce mélange mécanique et végétal.
C'est très japonais, ça. Hein.
Oui, aussi.
Ouais, c'est très, très, vachement beau. Il est très, très classe. C'est très steampunk aussi.
Oui, ouais, ouais.
Pourtant, courant littéraire à la base. Donc,
oui, c'est vrai. Ouais. Mais ça, je l'ai plus vu dans voilà, des animations japonaises, notamment Akira. Voilà, c'est plus cet univers-là.
Voilà. T'as Steam Boy aussi, dans ce genre-là.
Oui, aussi. Ouais.
Ouais. On vous ferez une liste de films à regarder si vous voulez.
Et une dernière question, personnellement, est-ce que vous auriez aimé vivre cette année?
Elle a un lourd destin sur ses épaules, ça se tient. Hein. Non, je crois pas. Enfin.
C'est par ses obligations que ça vous.
Ah, c'est violent quand même, hein. Enfin, c'est elle, je veux dire, elle. Ouais, c'est violent ce qu'elle vit. En même temps, c'est ça qui l'a fait grandir. Je pense qu'en fait, on vit tous des choses similaires, même si elles sont pas les mêmes. Dans toute ton adolescence, tout ce qui se passe, on est tellement à fleur de peau. Qu'on... Et puis bon, 18 ans, c'est l'adolescence. On est. On est toujours très malmené hein, quand on est ado. Les émotions sont beaucoup plus violentes. Voilà. Et si quand même un peu. C'est marrant parce que j'avais noté. Il y a un livre que j'aime beaucoup. Je crois qu'il est plus édité. Qui s'appelle. Vous connaissez Claude Roy, le poète. Il a écrit un livre super qui s'appelle « Défense de la littérature ». Je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin. Et alors, est-ce que je vais le retrouver ? Je trouve que c'est très juste et que ça permet de comprendre pourquoi la littérature pour jeunesse et ado, elle marche autant. Il écrit ça. S'il est vrai que les malheurs de l'enfance sont plus cruels que ceux qui nous frapperont plus tard, ce n'est pas seulement parce qu'ils atteignent un être plus vulnérable et plus sensible que l'adulte, c'est parce qu'ils atteignent un petit homme qui se croit le seul à vivre ce qu'il vit, qui en a honte et peur et qui est persuadé qu'il est le premier à qui il arrive ce qui lui arrive. Et je pense que ça, c'est hyper vrai. Et c'est peut-être encore plus vrai aujourd'hui, où les ados, ils sont quand même pourris de contact, on a les réseaux sociaux, je veux dire, il y a plein de trucs, mais finalement, parler des vraies choses, ça reste très compliqué, on n'a pas l'impression. Mais c'est très difficile de dire ses sentiments, ses émotions, etc. Peut-être même, alors j'ai peur d'être un peu, c'est pour une réac, mais peut-être même que c'est encore plus difficile avec justement cette facilité de consommation, aussi, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, je ne peux plus parler. Et la littérature, elle offre quelque chose à ce niveau-là. Elle offre un vécu qui est encore une fois métaphorique et en même temps auquel on peut s'identifier parce qu'on retrouve cette violence. C'est ta question qui m'y fait penser. Hein. La violence des émotions, le fait d'être désemparé, de se prendre plein la figure, je pense que c'est vraiment le moment, plus que l'enfance. Et de plus en plus. Ouais.
D'ailleurs, une des grandes phrases de l'adolescence, c'est « Ah, de toute façon, tu ne peux pas comprendre. »
Ouais, c'est vrai, en même temps.
c'est récurrent, je dirais.
Et moi, j'ai une question aussi, justement, sur le personnage de Saskia. Mmh. Si vous avez fait des recherches, il y a eu une héroïne ou un héros qui vous a inspiré ? Non. Une animation ou...
Non. Je fais pas ça. Non. Je sais pas. Il y a forcément des choses qui m'inspirent. C'est obligatoire. Mais si elles sont inconscientes. J'essaye toujours de. Alors quand je travaille et puis que je forge hein, des personnages, je pars toujours avec une espèce d'idée physique et de caractère, bon, qui en fait va changer hein, forcément. Mais je pense jamais à quelqu'un de... Non, alors. Non, je pense qu'elle me ressemble par certains aspects, mais je suis pas. J'arrive pas à ses chevilles. Non, on projette des choses, forcément, j'imagine. Moi, je projette des choses. Mais j'essaye de faire en sorte qu'elle soit complexe, qu'elle soit pas une caricature. C'est-à-dire qu'elle soit à la fois bonne et mauvaise, hésitante et forte. Et je pense que ça. C'est vraiment quelque chose qui est très propre aux héroïnes féminines, de pouvoir développer des choses comme ça. Et je pense que les femmes, elles sont beaucoup plus fortes que les hommes dans la vraie vie. Elles ont beaucoup plus de résistance, elles ont beaucoup plus de... Voilà, et en même temps, elles sont plus fragiles. Et c'est vraiment quelque chose auquel j'essaye de m'attacher. Ouais, voilà. Mais bon, voilà, après Todd, je ne suis pas rendu compte tout de suite, mais je pense qu'il ressemble un peu à mon impôt, par exemple.
Qui n'a pas d'aile, je précise, mais voilà.
Non, mais voilà, il y a aussi... on les aime, ces personnages. Enfin, moi, il n'y a pas un personnage que j'aime pas. Donc, forcément, quand on a envie de les mettre en valeur, on leur donne des choses et puis on s'aperçoit que, ben oui, c'est des choses qui sont vraies et qui existent, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça arrête.
Si. Voilà, si on a fait le tour des questions, je propose de clore cette table ronde. Merci de votre participation à tous les deux. Désolée pour l'école qui a potentiel posé. C'est très gentil d'avoir accepté de participer. Donc, je vous laisse consulter les livres. Derrière vous, il y a un petit stand de la librairie aux merveilles où vous pouvez acheter les livres de Marie et quelques autres ouvrages axés autour d'une héroïne. Et puis, je vous invite aussi à faire le tour de la galerie de Ben, d'acheter les repros si t'en as. Bon, moi, je sais que je vais partir avec le loup à la fin du week-end. Donc, merci beaucoup et puis bonne fin d'après-midi.
Merci.